Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers pères et frères, chers fidèles, la Sainte Église honore aujourd'hui le Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier par une fête de première classe. En Fils aimant de notre Mère, demandons-nous quel aspect de notre Seigneur elle présente à notre dévotion. Quelles conséquences cela peut avoir pour notre vie quotidienne et aussi pour la vie des nations dans les temps actuels? Et d'abord, quel aspect de notre Seigneur l'Église présente-t-elle à notre amour? Dans la dévotion au Sacré-Cœur, l'Église nous présente le cœur de chair de Jésus, vivant dans sa poitrine, et battant d'amour pour les hommes. La dévotion au Sacré-Cœur est la dévotion à l'amour de Jésus pour nous, à l'amour dont il nous a aimés comme hommes et aussi dont il nous aime comme Dieu, puisque la nature humaine de notre Seigneur est unie à la seconde personne divine. La dévotion au Sacré-Cœur se termine donc à la personne divine de celui qui nous montre son cœur tout aimant. Elle est une forme spéciale de notre dévotion à la personne adorable de Jésus, dévotion à Jésus tout aimant, qui a été jusqu'à s'épuiser et se consommer pour nous témoigner son amour, comme il l'a révélé à Sainte Marguerite Marie. Qu'a-t-il fait pour nous témoigner son amour ? Il s'est livré pour nous à la mort sur le calvaire et il se donne tout à nous dans le très saint sacrement de l'autel. Ce sont deux aspects inséparables dans cette dévotion. Il s'est montré à Sainte Marguerite Marie avec la plaie que lui avait faite la lance du soldat, entouré d'une couronne d'épines signifiant les piqûres de nos péchés et surmonté d'une croix. La croix par laquelle son amour a réparé tous nos péchés. Et il s'est montré à la Sainte alors qu'elle était en prière devant le Saint-Sacrement exposé, indiquant par là que la Sainte Eucharistie était l'aboutissement ultime de son amour. Le principal effet de l'amour est l'union, dit saint Thomas d'Aquin, c'est pourquoi notre Seigneur a institué l'Eucharistie. L'Église a d'ailleurs institué une fête du cœur eucharistique de Jésus, fixée au jeudi dans l'octave de la fête du Sacré-Cœur et malheureusement supprimée par Jean XXIII. Mais ce serait tronquer et déformer singulièrement la dévotion au Sacré-Cœur que d'en oublier le caractère spécial. Jésus ne se contente pas de nous montrer son cœur blessé d'amour, il nous montre cet amour méconnu, outragé par ceux-là même de qui il était en droit d'attendre plus de retour et qui par vocation devraient l'aimer davantage, les âmes consacrées. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et pour reconnaissance je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. Le cœur de Jésus doit donc être considéré sous deux rapports. D'une part, comme embrasé d'amour pour les hommes, et de l'autre, comme offensé cruellement par l'ingratitude de ces mêmes hommes. Et par là, digne non seulement de notre amour, mais aussi de notre compassion. Jésus, bien sûr, ne souffre plus dans le présent, puisqu'il est maintenant glorieux. Mais pendant sa passion, il a souffert du présent, qu'il voyait alors, puisqu'étant Dieu, il était au-dessus du temps. Et il a été consolé en voyant à l'avance les âmes qui, au cours des siècles, se donneraient à son amour. Tout ceci était nécessaire à rappeler pour bien comprendre maintenant quel est l'acte propre de la dévotion au Sacré-Cœur. Quand Jésus montrait à Sainte Marguerite Marie son cœur passionné d'amour pour les hommes et incapable de contenir plus longtemps les flammes qui le dévoraient, désirant faire part à tous des richesses infinies de son cœur, que voulait-il, sinon amener les hommes à lui rendre hommage en l'honorant sous l'image de son cœur de chair et à lui rendre amour pour amour. Citons Sainte Marguerite Marie. Il me fit voir l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et qui lui avait fait former ce dessein de nous manifester son cœur avec tous les trésors d'amour, de miséricorde, de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait, afin que tous ceux qui voudraient lui rendre et procurer tout l'honneur, l'amour et la gloire qui seraient en leur pouvoir, il les enrichit avec abondance et profusion de ces divins trésors du cœur de Dieu. Cette dévotion est comme un dernier effort de son amour qui veut favoriser les hommes en ces derniers siècles de cette rédemption amoureuse pour nous mettre sous la douce liberté de l'empire de son amour. Ce n'est d'ailleurs qu'un écho de ce que notre Seigneur dit dans l'Évangile et que la liturgie nous a fait chanter hier aux premières vêpres. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et quel est mon désir sinon qu'il s'allume? L'humanité l'oubliait quelque peu, notre Seigneur est venu le rappeler à Paray-le-Monial. Comprenons bien ici que ce que demande essentiellement le Sacré-Cœur, ce ne sont pas seulement quelques pratiques à des temps déterminés, c'est toute notre vie. C'est la même chose d'ailleurs pour la dévotion au cœur immaculé de Marie. Un auteur écrira que la dévotion au Sacré-Cœur, c'est l'amour de Jésus envahissant l'âme avec toutes ses pensées, toutes ses affections, tous ses actes, de façon que ce ne soit plus nous qui vivions, mais Jésus-Christ qui vive en nous. C'est l'écho de ce que dit saint Paul d'ailleurs. Le père Nouet, l'un des grands apôtres de cette dévotion au XVIIe siècle, donnera des conseils précis. Au commencement de chaque action, écrit-il, élevez-vous en esprit à Jésus, et d'une vue simple et amoureuse, regardez comment il faisait durant sa vie ce que vous allez faire, et de quelle manière il le ferait s'il était en votre place. Imprégnez cette vue d'un désir ardent de lui plaire, de le contenter et de l'honorer. Unissez votre cœur au sien, votre action à la sienne, afin d'en tirer force et vigueur pour la faire avec son esprit. Le sommet, ce sera la consécration personnelle au Sacré-Cœur de Jésus pour ceux qui y sont invités par le Saint-Esprit. À cet aspect premier et essentiel de la dévotion et valable pour toutes les époques, vient s'ajouter en notre temps, en second, l'aspect réparateur caractéristique des révélations de Paray, et lié au fait que nous sommes entrés dans un moment de l'histoire où le monde s'est refroidi à l'égard de notre Seigneur. L'amour de Jésus tel qu'il s'est montré à Sainte Marguerite Marie est un amour méconnu et outragé. Cette réparation, attention, n'est pas une réparation de justice et d'expiation, des pénitences que nous devrions faire pour l'ingratitude de ce monde, par exemple, mais une réparation d'amour. Il s'agit d'offrir à notre Seigneur une compensation d'amour pour ceux qui ne l'aiment pas, afin de réparer sa gloire et d'obtenir le salut de ses âmes ingrates. C'est dans cet esprit que notre Seigneur, lors de la grande révélation de 1775, a demandé l'institution d'une fête réparatrice le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, notre fête d'aujourd'hui, où l'on communierait et où on lui ferait réparation d'honneur par une amende honorable, celle qui sera lue cet après-midi devant le Saint-Sacrement. C'est aussi la communion réparatrice des premiers vendredis de chaque mois, à laquelle notre Seigneur accorde tant d'importance qu'il promet le salut à ceux qui embrasseront cette pratique 9 premiers vendredis de suite. C'est encore l'heure sainte du premier jeudi, en union avec Jésus souffrant au jardin des Oliviers. Vous voyez le lien qui existe toujours dans ces pratiques entre les deux grandes manifestations de l'amour du cœur de Jésus pour les hommes, la Passion et le Très-Saint-Sacrement. Un vendredi, jour de la Passion, et puis une communion. Ou un jeudi, le jeudi saint. Mais l'essentiel de cette dévotion consistera en l'offrande de toute notre vie au cœur de Jésus. Il faut aller plus loin en 1689. Notre Seigneur, en 1689, manifeste son désir de régner non seulement dans les cœurs individuels, mais aussi dans le palais des rois. Et cela devait commencer par le roi de France. Fais savoir au fils aîné de mon sacré cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Notre Seigneur ajoutera que le roi devra intervenir auprès du Saint-Siège pour obtenir la fête réparatrice du Sacré-Cœur, qu'il fasse construire un édifice où serait placé le tableau de ce divin cœur pour y recevoir l'hommage de toute la cour, et qu'il appose l'image du Sacré-Cœur sur les étendards et sur les armes. Et qu'en retour, il répandrait avec abondance ses bénédictions sur toutes ses entreprises qu'il ferait réussir à sa gloire, et qu'il donnerait un heureux succès à ses armes pour les faire triompher de la malice de ses ennemis. Notre Seigneur veut régner sur les sociétés. C'est toute la doctrine du Christ roi, nous ne la referons pas. Disons quand même que c'est notre Seigneur qui a fait l'homme social. S'il a voulu que les hommes s'organisent en société, c'est pour arriver plus facilement au but pour lequel ils ont été créés et qui est le ciel. Et il n'y a qu'en se soumettant à celui qui les a créés que les sociétés rempliront la tâche qui est la raison principale de leur existence. Il est intéressant de voir ici que le pape Léon XIII, dans l'encyclique par laquelle il annonçait la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus, commence par tracer toute la doctrine du Christ roi que reprendra le pape Pie XI au siècle suivant. Le magistère unit ainsi le Christ roi et le Sacré-Cœur pour manifester que la royauté que le Christ veut étendre sur les nations est une royauté d'amour. On peut en conclure que la dévotion au Sacré-Cœur est l'âme du combat de l'Église et de ses enfants pour le Christ roi. Et c'est la seule solution au problème de ce monde. Il n'est qu'à penser au redressement miraculeux de l'Équateur, même sur le plan économique, dès lors que Garcia Moreno a consacré le pays au Sacré-Cœur. Pensons aussi à ces villes qui se sont spontanément consacrées au Sacré-Cœur au milieu des calamités publiques, ne voyant leur salut que dans le cœur de Jésus. C'est ainsi que Marseille fut délivrée de la peste en 1720 et 1722, et d'autres villes en firent autant à l'époque. C'est pourquoi le pape Léon XIII présente le Sacré-Cœur comme notre nouveau labarum. De même que la croix fut montrée à Constantin comme le signe de sa victoire qu'il devait mettre sur ses étendards et les armes de ses soldats, ainsi aujourd'hui le ciel nous montre le Sacré-Cœur comme signe infaillible de la victoire. Les rois de France n'y ont pas cru, et l'on sait les malheurs dans lesquels ils ont plongé leur famille et la France en résistant aux avances du cœur de Jésus. Nous en subissons encore les conséquences. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ce cœur régnera malgré Satan et tous ceux qui cherchent à s'y opposer, dit notre Seigneur lui-même à Sainte Marguerite Marie. En cette fête du Sacré-Cœur, puisse une étincelle de ce brasier d'amour toucher notre cœur encore bien froid et l'enflammer davantage d'amour pour notre Seigneur et pour nos frères. Donnons-lui notre vie, consacrons-lui nos familles, toutes nos œuvres, pour les sanctifier, pour obtenir leur protection, pour avancer le jour où le Sacré-Cœur de Jésus, uni au cœur immaculé de Marie, régnera sur le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.